418-971-1021, 418-971, si vous avez des choses à nous dire. C'était la loterie hier dans la Ligue nationale de hockey. Quel show cheap, pareil. Hein?
Pas long, une demi-heure, c'est réglé.
Je veux dire, on parle, la Ligue nationale de hockey, c'est des milliards et des milliards des milliards de dollars que ça implique. Puis on voit même pas le boulier, on voit rien. On voit juste un monsieur qui se présente en disant « Le cinquième choix appartiendra
avec
aux
les
Canadiens
cartons.
De Montréal. » Avec des petits cartons.
Ouais.
Bon Dieu que c'est pas le meilleur show qu'on a eu hier.
Ah, c'était pas le meilleur show parce qu'il n'y a pas eu de changement. Toutes les équipes qui étaient supposées d'être à cette place-là sont restés. Donc, les Sharks de San Jose vont avoir le tout premier choix au prochain repêchage à la fin juin. Ils devraient repêcher le centre Macklin Celebrini. Chicago qui va avoir le deuxième choix. On sait que les Blackhawks ont eu Connor Bedard l'année dernière. On va ajouter encore un autre joueur de talent. Anaheim va être troisième, Columbus quatrième et Montréal va être au cinquième rang, le Canadien. On parle d'un attaquant possiblement pour le Canadien. J'ai hâte de voir ce qu'on va choisir. C'est sûr qu'on va y aller avec le meilleur joueur disponible. C'est ce que Kent Hughes a dit. Mais si on a des talents égaux, attaquant, défenseur, on va y aller avec un attaquant.
Avec un attaquant.
Ouais.
Il y a le Russe qui semble être très intéressant. Demidov.
D'après moi, ce sera pas là au cinquième rang pour le CH. D'après moi, on va se faire repêcher un peu plus tôt. Mais des gars comme Caden Lindstrom, le petit...
Iserman.
Oui, Iserman aussi, le fils de Jerome Iginla, Tidge Iginla aussi, qui est peut-être dans les conversations pour peut-être se faire repêcher par le Canadien.
Y a-tu du pain dans le nez?
Oui, il y a du pain dans le nez. Il a joué notamment dans le dernier tournoi en fin de semaine, les moins de 18 ans là, qu'on a vu en finale. Il est exceptionnel
mais
aussi.
C'est le fils à qui, mettons?
Jerome Iginla.
Puis il jouait pour qui?
Les Flames de Calgary.
Flames de Calgary.
En quelle année?
Début 2000.
Je pense. Oh,
c'est un
80...
bon?
Ouais, début 2000, ouais. T'as raison.
Bonne position. Son fils, c'est-tu à la même position?
Je crois pas qu'ils sont à la même position, mais c'est deux attaquants.
Ah, voilà pour tous les gens qui avaient besoin de spécifications. Je suis là pour vous.
En tout cas, s'il y avait des gens qui avaient besoin de spécifications, vous pouvez dire au
418-971-1021
que vous êtes dans l'équipe à Pascal. OK. Sinon, y a-t-il des matchs à surveiller ce soir?
Oui, matchs à surveiller ce soir notamment. Ben, je vais commencer première des choses avec les résultats d'hier. Les Rangers de New York, grosse victoire en prolongation hier de 4-3 face aux Hurricanes de la Caroline. En deuxième prolongation, Vincent Trocheck qui a marqué le but gagnant pour les Rangers. Alexis Lafrenière aussi, excellent match. 2 buts pour lui hier. Et donc, les Rangers qui prennent les devants 2-0 dans cette série. Sinon, le Colorado qui a fait une remontée de 3 buts. On perdait 3-0. On a remonté la pente. On a remporté le match en prolongation 4-3 grâce à un but de Miles Wood. Le Colorado qui a les devants 1-0. Puis ce soir, 2 matchs à surveiller. Match numéro 2 entre les Bruins et les Panthers et match numéro 1 entre les Oilers et les Canucks. J'ai hâte de voir ça. 22h.
Ouais, ça a brassé en Beauce en fin de semaine. Les Hells Angels qui étaient dans un party dans le secteur de l'Estrie et deux individus auraient voulu s'en prendre au bunker d'un club affilié aux Hells Angels. Il y a 2 personnes qui étaient chargées de surveiller l'endroit, qu'on appelle des strikers ou des hang-around, qui étaient restés dans cet emplacement-là. Et quand les gars sont arrivés avec du matériel pour incendier le bunker, ben, ils se sont fait surprendre. Puis des deux côtés, semblerait que ça a tiré. Et ça laisse croire que les Hells Angels actuellement sont dans une position de faiblesse.
Vulnérable.
Et il y avait un rassemblement en Estrie. Maria Mourani nous apprend que le rassemblement était à Saint-Denis de Brompton en Estrie. C'est un rassemblement annuel qu'on appelle la First Run sous le thème intimidation et démonstration de force à l'ère des grandes révoltes. Maria Mourani est là. Bonjour, Mme Mourani.
Bonjour.
Est-ce que les Hells Angels sont en position de faiblesse actuellement au Québec?
Ben, je peux pas dire position de faiblesse. C'est que depuis, depuis l'année dernière, ils ne sont plus, disons, aussi craints par certains groupes comme ils l'étaient avant. C'est-à-dire que si avant leur domination, puis leur stratégie d'intimidation et le fait que, bon, vous nous payez des cotes, tu ne peux pas vendre ici si on ne donne pas l'autorisation, tu dois payer mon stock, etc. Ben, c'est plus comme ça. C'est-à-dire cette espèce de règle qu'ils avaient mis en place depuis très longtemps, ben, c'est plus tout le monde qui est d'accord avec ça, puis c'est plus tout le monde qui accepte de suivre ces règles-là. Donc, au fond, je dirais que leur, euh, leur leadership est remis en cause, sans forcément dire qu'ils sont affaiblis, parce que c'est quand même une organisation internationale, hein, les Hells Angels, là. Disons que le chapitre de Québec, ramenons-le plutôt au niveau local, on ne dira pas les Hells Angels, on dirait peut-être le chapitre de Québec, puis certains chapitres dans la province de Québec qui sont un petit peu remis en doute, quoi.
Mais les Hells Angels, c'est
quand même une organisation internationale. On parle de plus de 50 pays, donc c'est pas
l'entité au complet, là. Mais c'est intéressant, ouais, par contre, ouais, par rapport à notre région, de voir qu'ils n'ont peut-être pas fait ce qui était à la hauteur d'un autre crime organisé, disons-le comme ça. Mais pour pas faire de mauvais jeu de mots, j'avais l'impression que dans les dernières semaines, ils avaient repris du pic face à la gang de Pictourmel.
Ouais, non, c'est juste une impression. C'est qu'au fond, moi, quand j'analyse ça de manière très objective, là, je ne prends pas le parti de personne, là, et ce que je constate, c'est que depuis l'année dernière, ils sont dans la soupe chaude, surtout le chapitre de Québec. Ils n'ont pas réussi à contrôler leur territoire. Puis il faut savoir que techniquement, chaque chapitre est autonome. C'est-à-dire, même si on fait partie de la grande organisation des Hells, ben, chacun gère ses problèmes dans son territoire. Donc ça veut dire le chapitre de Montréal, il ne va pas venir te dire comment gérer ton territoire. Mais quand tu commences à pas contrôler tes joueurs sur le territoire, là, les autres chapitres, ben, ça, la mauvaise image découle sur eux autres aussi. C'est comme si je vous dis, vous prenez une grande chaîne, puis qu'il y a quelques succursales qui font pas la job correctement, ben, ça dépend sur toute l'organisation au complet. Donc, ce qu'on a vu depuis l'année dernière, c'est que le chapitre de Québec n'arrivait plus à contrôler certains indépendants et certains gangs qui se sont alliés avec ces indépendants-là pour faire comme une espèce de révolte. Ils n'ont pas réussi à contrôler ça, et puis ça a dégénéré à tel point que la police a dû faire le ménage, a dû faire un certain ménage pour diminuer en fait la pression qui était sur le terrain, parce qu'on voyait fusillades, on voyait incendies criminels, tortures, des gars qui étaient kidnappés, torturés, des gars qui se faisaient descendre. Donc, on voyait que ça allait en escalade. Donc, pour désescalader, en fait, pour faire de la désescalade, il y a eu cette intervention policière qui a comme diminué un peu la pression dans la cocotte minute, là. Et en même temps, ça donnait une image que la police fait le nettoyage pour les Hells. Donc, quelques semaines après, on a vu des descentes qui ont été faites chez les Hells Angels et puis leur club supporter. Donc, ça donnait une impression d'équilibre et que, d'une certaine manière, les problèmes étaient réglés. Mais moi, ce que j'entendais sur le terrain, c'est que c'était loin d'être réglé. Et je ne l'ai pas mis dans ma chronique parce que je ne voulais pas avoir l'air d'un qu'on appelle les annonciateurs de malheur, là. Mais moi, j'étais convaincue qu'il allait y avoir quelque chose, une attaque des Bloods durant leur grand rassemblement. Moi, je m'attendais à quelque chose dans le rassemblement même, mais je pense qu'ils ont été plus wise, ils sont allés s'attaquer au bunker.
Ben, c'est parce qu'il y avait tellement de policiers en Estrie pour surveiller le rassemblement des Hells, pour faire de l'identification, comme vous le mentionnez dans votre chronique, qu'à un moment donné, c'était peut-être un peu plus facile pour eux autres de s'attaquer à ce type de bunker-là, qui est de moins en
ils
moins...
Ils sont tellement fous, ils sont tellement casse-tête parfois, ils sont tellement fous que je me suis dit, ils sont assez fous pour aller se pointer là-bas et faire quelque chose. Je me doutais qu'il allait avoir quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt sur quoi exactement. Je me suis dit, ils sont assez fous pour faire ça. Et puis là, comme de fait, ils sont allés au bunker, là. Donc, c'est drôle parce que dans ma chronique, je disais, celle qui est sortie le jeudi, je disais, les Bloods sont morts de rire. Puis c'est vrai. Vous voyez, ils ont attaqué leur bunker pour leur dire, vous avez beau rouler avec vos motos, puis vos patchs, puis vos vestes, là, pour nous faire peur, nous dire que vous reprenez le territoire, vous reprenez le contrôle, ben nous, on n'en a rien à faire. On attaque. C'est une réponse, c'est message pour message. C'est-à-dire, eux, ils ont fait leur first round, puis ah ouais, les gars se réunissent, on donne des promotions, puis même Célestin devient un membre des maraudeurs, tout ce que vous voulez. Puis de l'autre bord, ils leur disent, ben, allez-y voir ailleurs si on y est. Hein, on attaque votre bunker.
Ouais. Vous avez des yeux,
c'est trop drôle.
Vous avez des yeux, des oreilles partout, Madame Maria Mourani. Nous, on surveille beaucoup ce qui se passe dans le secteur de Québec. Moi, mes oreilles s'assilent des fois par rapport aux Hells Angels. Ce qu'on mentionne, c'est qu'il y a une difficulté de recrutement. Il y avait des hang-around et des strikers à la pochetée il y a de ça 4, 5, 6 ans. Et là, maintenant, avec cette fameuse guerre avec les gangs de rue, ben, les strikers, les hang-around se sont fait menacer, se sont fait montrer des photos de leurs enfants, ils se sont fait montrer des photos de l'école où leurs enfants vont, ils se sont fait montrer des photos de leurs conjointes et ont tout simplement dit aux gens des Hells Angels qui, eux autres, ont des entreprises maintenant qui sont très prospères, c'est devenu des hommes d'affaires très vieillissants, soit dit en passant. On parle de 55 à 70 ans pratiquement là, dans le secteur de Québec et même plus, si je ne me trompe pas. Donc, eux ont de la difficulté à recruter maintenant des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour grimper dans l'organisation, parce que ces gens-là se font menacer leur famille, ce qui ne se faisait pas nécessairement avant.
Oui, il y a plusieurs éléments intéressants là-dedans dans ce que vous dites. Oui, vous avez raison. Mais il ne faut pas oublier que les techniques de menace ont toujours été de ce type-là, c'est-à-dire les menaces à la famille, ça, c'est pas nouveau. La petite nouveauté, c'est que maintenant, d'abord, les membres sont vieillissants, hein, comme vous le dites. Donc, ils sont très impliqués dans le commerce légal. Ils ont appris de la guerre des motards qu'il fallait pas mettre la main dans le cambouis. C'est ça la différence, c'est que les gars de gang, ils mettent la main dans le cambouis, hein, et puis ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils ont rien à perdre. C'est ça la réalité. Alors que les membres des Hells Angels, ils ont tout à perdre. C'est-à-dire, ils sont plus... ils ont fait en sorte de s'éloigner des exécutions qui peuvent les amener à faire du temps longtemps. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils délèguent beaucoup. Mais dans la délégation, c'est-à-dire, imaginez un peu, c'est des rois, hein? On bouge pas, on se démène pas trop, on roule des business, on blanchit l'argent. Puis le seul boulot, ben, c'est les clubs supporters, c'est les nouveaux, c'est eux qui vont faire ça, c'est ceux que vous appelez les hang-around, c'est eux qui vont faire ça. Et puis les clubs supporters, beaucoup les clubs supporters. Donc, au bout du compte, les gens, ils sont pas fous. C'est plus la même génération. Maintenant, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils disent, OK, moi, je vais aller mettre ma main dans le cambouis, là, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Toi, tu fais des millions de dollars, là, puis moi, je ramasse des grenailles. Ça vaut-tu la peine? C'est ça, l'affaire. Est-ce que ça vaut la peine que je mette ma famille en danger? Est-ce que ça vaut la peine que je mette ma vie en danger pour des grenailles, pour que ces gars-là puissent poser leurs fesses sur des trônes en or? Là.
Mais pourquoi avant ça fonctionnait? Pourquoi des gens acceptaient des grenailles dans le temps? Puis
non,
maintenant?
Avant, c'était eux qui mettaient la main dans... Ça, c'était eux. Avant, au temps de mon boucher, là, c'était des motards eux-mêmes qui se tiraient dessus. Là.
Ouais.
C'était pas forcément juste les gars des clubs. Parce que, vous savez, dans une guerre, je vais vous dire une chose. Dans une guerre, si les commandants en chef sont pas dans les premières lignes, les soldats, ils sont pas intéressés à faire la guerre. C'est connu, ça. Donc, au fond, quand tu vois que les commandants en chef, là, ils se pognent le beigne, là, puis qu'au fond, là, eux autres, là, ils font juste du people, puis rouler du business, pendant que toi, c'est toi qui as le gun en main, là, ben, c'est pas pareil. Mais autant de mon boucher, là, c'était mon boucher qui avait les guns, c'était les full patch. Il montrait, si vous voulez, l'exemple, entre guillemets, même si c'est pas un bon exemple, là, ben, c'était eux qui étaient sur le terrain et qui faisaient les guerres. C'était pas, ils déléguaient pas autant que maintenant. Mais eux, ils ont compris que le fait qu'ils n'ont pas délégué, ils se sont tous retrouvés en temps à faire du long temps, du temps et pas à peu près. Donc, la dynamique a changé. Donc, ça veut dire que les façons de faire doivent changer, mais les gars dans les Hells, ils sont pas encore rendus là. Ils sont trop à l'ancienne façon de faire, et l'ancienne façon de faire ne fonctionne plus.
Et puis les guerres aussi, les guerres de peur. On voyait pas ça avant, les moteurs se faire découper. Là, maintenant, c'est mis sur les réseaux sociaux. Ça, les ouais. amis s'envoient ça à des amis, puis tout le monde regarde ça en disant « Tabarouette, ça n'a pas de bon sens, il vient de se faire découper une oreille. » Ça existait dans le temps des années 70-80, mais Messenger n'existait pas, les textos n'existaient pas non plus.
Vous avez tout à fait raison. C'est qu'avant, quand ils s'entretuaient, personne ne savait rien.
Ouais.
De temps en temps, ça sortait dans les médias, le Journal de Montréal, qui dit qu'il y a un type qu'on a retrouvé son corps, blablabla. Mais là, c'est filmé en direct. Là. On te montre en direct ce que je suis en train de lui faire à ce gars-là, puis ça va sur les réseaux sociaux. C'est sûr que la dynamique, elle est pas pareille. Là. Donc, c'est-à-dire, les gars, maintenant, ils vont se mettre à penser à mille fois avant. C'est pas la police qui les fait peur, là. Maintenant, c'est l'ennemi. L'ennemi, il est fou. L'ennemi, ils vont regarder ça, ils vont dire, le gars, ils sont crackpots. Ils ont rien à perdre.
Mais le pic Turmel, là, c'est quand même sauvé en Europe. Donc, il n'était pas sur le champ de bataille à ce moment-là. Non. Qu'est-ce qui qualifie le fait que le pic... Là, j'ai peur de me faire attendre au Racavello, là, mais vous le saurez, ce sera à cause de mes propos. Qu'est-ce qui fait que le PIC a pu partir, lui, de la dite guerre, puis c'est ces hommes de main, finalement, qui, en ce moment, se font attraper par la police, se font emprisonner, se font questionner. Pourquoi est-ce qu'on lui vaut encore autant d'admiration et d'ouvrage?
Ben, parce que son capital symbolique est fort. C'est-à-dire que ce gars-là, pendant un an et demi, ben, il a fait suer les grands Hells Angels. Donc, au fond, sa réputation, il a bonifié sa réputation à cause de ça. En plus de ça, il s'est enfui. Il a envoyé paître celui qui était chargé justement d'amener l'ordre lorsque les indépendants se révoltent. En plus de ça, il est à l'étranger, Interpol ne le retrouve pas. Donc, dans le milieu des gangs, ce gars-là, il a une belle image, il a une belle aura. Il n'a pas forcément besoin d'être sur le terrain. Il peut diriger ses amis, parce qu'il ne faut pas oublier, dans les gangs, le sentiment d'amitié est beaucoup plus fort que dans les Hells Angels. Pourquoi? Parce que les Hells, entre eux, c'est une bande de chums. Mais avec les clubs supporters, ils ont une relation un peu hiérarchique. On a les Hells, puis il y a les clubs supporters. Donc, au fond, les clubs supporters n'ont pas la même relation entre les membres qui sont dans les clubs supporters et les membres qui sont dans les Hells Angels eux-mêmes. Alors que si on prend, par exemple, BFM, tous les membres de BFM sont comme des frères. Mais les gars de Montréal, les Bloods de Montréal, c'est comme des frères pour BFM. Vous savez, le lien relationnel entre les gars de gang est beaucoup plus puissant qu'entre les différentes organisations. Et ce lien d'amitié, qui parfois même est un lien familial, c'est des gens de la même famille parfois, c'est des gens qui ont grandi ensemble, qui ont fait des coups ensemble. Donc, la relation n'est pas la même qu'entre les Hells, les membres des Hells et les membres des clubs supporters. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le gars, il a fait ses preuves. Il a fait ce que personne n'a encore osé faire, c'est-à-dire de rassembler la grogne des indépendants pour leur dire on va se mettre ensemble, puis on va les envoyer paître, les Hells Angels. Ça s'est jamais vu là, du tout là, au Québec.
C'était une première.
Donc ça, c'est une première. Alors au fond, il a montré, ça fait longtemps, ça je peux vous le dire, que moi j'entends la grogne des Bloods, mais aussi de plusieurs indépendants face aux Hells. Ça fait des années que j'entends ça. Puis à chaque fois, je disais, ouais, mais vous vous plaignez, mais vous exécutez pareil. Puis ceux qui ont commencé à se révolter, même déjà en 2017, 2018, 2019 même, il y a eu plusieurs leaders des Bloods qui se sont fait descendre parce que, justement, ils refusaient de se soumettre. Mais ça se plaignait, mais il n'y avait pas vraiment de réelle révolte. Mais ce gars-là, il leur a montré que c'était possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le milieu des gangs, maintenant, ils savent que c'est possible de les attaquer. Ce n'est pas le géant qu'on ne peut rien faire. C'est des géants de papier qu'on peut vraiment... les attaquer, les poster, les torturer. Et ça, c'est majeur, parce que la dynamique maintenant relationnelle n'est plus comme avant. Alors, quand il y a eu l'opération policière contre BFM, Beaucoup ont dit, ouais, ça y est, c'est fini, on les a éradiqués. Moi, j'ai dit non, on ne les a pas éradiqués. Et, au contraire, tout ce qu'ils vont faire là, c'est se renforcer, c'est recruter. C'est de dire, regardez, on a réussi à le faire. Maintenant, il faut juste continuer, il ne faut pas se décourager, on va continuer. Puis d'ailleurs, la rumeur qui circule beaucoup dans le milieu des gangs, c'est la police était de mèche avec les Hells. T'as vu comment ils ont nettoyé le terrain pour... ils ont attaqué BFM. Ça, ça circulait beaucoup, hein, dans le milieu des gangs, comme quoi la police a aidé les Hells. Ils ont eu besoin de la police pour arrêter BFM.
Ouais.
Tout ça, là, ça circule. Donc, les jeunes se rendent compte que c'est possible de faire ce qu'on veut, au fond.
Oui, mais il y avait un petit peu de vrai dans ces fameuses rumeurs-là. Là. Mais parce qu'effectivement, les policiers ont travaillé extrêmement vite. Là, tous les policiers, même de l'ouest du Québec, sont descendus pour prêter main forte aux autorités ici dans l'est du Québec. Puis ça s'est fait rapidement, en quelques jours. Donc, nécessairement, il y avait de l'information sur le terrain. Est-ce que c'était les grands chefs Hells Angels qui parlaient? Je pense pas. Mais les langues se sont déliées pour que les opérations se fassent extrêmement rapidement. Madame Mourani, on invite nos auditeurs à aller lire votre chronique dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Maria Mourani, qui est présidente de Mourani Criminologie, mouranicriminologie.com. C'est toujours un plaisir de vous jaser.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Bonne journée.
Bye-bye. Es-tu excellente, Maria Mourani? Elle est exceptionnelle.
Elle est sur la coche.
Ouais, on l'aime.
Je trouve ça drôle quand t'as ri. Elle dit rien.
C'est ça. Mais elle a fait comme se comprendre.
Exact.
C'est fascinant, le monde dans lequel elle baigne depuis longtemps.
Vraiment.
Midi 51, on revient.
Marceau